It was destroyed and then rebuilt by the Greeks, Romans, Byzantines, Arabs, Crusaders, and Mamelukes.
И что сидим с камерой? Вы что улыбаетесь-то? Здесь не до смеха.
It was destroyed again by Napoleon's army and again rebuilt by the Turks. Then came the British conquest and finally the Israelis.
И как мы этот вопрос будем сейчас решать?
What a history.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes en direct du Festival international du documentaire qui se déroule actuellement à Marseille, au Palais du Pharo. 18 pays en tout sont représentés à travers ce programme de 125 films, dont 30 sont en compétition. C'est la 17e édition pour ce festival qui grossit chaque année un peu plus sa programmation. Il y a plusieurs écrans parallèles qui sont proposés autour de rétrospectives ou de thématiques. Et c'est l'un de ces écrans dont nous allons parler ce matin, puisque j'accueille ici sur ce plateau des 3-8, Nathalie Guimard et Vincent Tuzet-Henrès. Tous deux ont façonné une nouvelle thématique pour ce festival intitulée « Les sentiers » du documentaire « Jeune public, tout public » on va dire. Vincent.
Oui, c'est un écran qu'on voulait ouvert à des spectateurs à partir de 6 ans.
D'accord, donc on avancera un peu plus là-dessus tout à l'heure. Donc votre association, c'est Photokino, qui se consacre depuis 5 ans à la diffusion de travaux artistiques dans le champ des arts visuels, et vous programmez des ateliers, des expos, des projections, des rencontres. Et c'est la question de la transmission de l'art aux enfants qui est toujours présente chez vous. Donc bonjour vous deux, bonjour Nathalie, bonjour Vincent. Je continue les présentations puisque notre troisième invité s'appelle Paul Coste. Il est programmé dans cet écran parallèle. Son film s'appelle Matière première. Bonjour Vincent,
bonjour Paul.
Bonjour Pascal. Paul. C'est l'histoire, votre film, donc c'est l'histoire de plusieurs enfants de nationalités différentes qui se retrouvent dans une école, je crois, régulièrement pour échanger et se dire de la poésie, tout simplement. Un film émouvant qui va droit dans les préoccupations de Photokino. C'est l'éveil de l'art, le partage de l'art, la recherche de l'identité à travers les langages. Voilà, les présentations sont faites. Bonjour à vous trois, donc. Alors, je vais commencer par poser une petite question à Nathalie et Vincent de Photokino. Comment définissez-vous votre écran parallèle Les Sentiers et quelle direction avez-vous pris pour cette programmation?
Alors, pour ce qui est de la définition, c'est vrai que c'est une question un peu délicate pour nous. On n'a pas réussi véritablement à le définir précisément pour l'instant. Peut-être ça va venir avec les années, en espérant que cet écran puisse se renouveler d'année en année au Festival du documentaire. Il y a toujours l'ambiguïté, est-ce que c'est des projections pour enfants ou est-ce que plutôt c'est des projections qui sont ouvertes aux enfants, avec des films visibles par des enfants. On a tendance justement à faire le raccourci en disant que c'est des projections pour enfants, en même temps quand on voit le public qui remplit les salles, on se rend compte que le public qui suit les films est majoritairement un public d'adultes. C'est aussi dû au fait que c'est la première année qu'on programme cet écran et que donc il faudra que les habitudes se créent et que les parents petit à petit aient le réflexe de proposer ces écrans à leurs enfants. Alors effectivement, nous dans notre programme, dans notre travail de programmation, on préfère parler de films visibles par des enfants. C'est-à-dire que c'est des films qui peuvent être à la fois réalisés en priorité à destination des enfants, mais pas seulement. Ça peut être des films d'artistes, des films documentaires qui abordent des sujets qui nous semblent intéressants à montrer à des enfants aussi. Mais c'est aussi la particularité avec le documentaire, c'est aussi que les films souvent achoppent sur des sujets qui à la fois intéressent les enfants mais aussi les parents. Et donc c'est l'occasion aussi d'un partage entre adultes et enfants sur des sujets qui sont communs, ce qui n'est pas tout le temps le cas avec des films qui sont réalisés en priorité, on va dire, à destination des enfants. Où là, peut-être les parents ont un peu fait le tour des questions qui sont proposées aux enfants, que ce soit peut-être dans le cinéma de fiction, le cinéma d'animation grand public, ou peut-être ce qui est souvent proposé en documentaire aux enfants, ça peut être le documentaire animalier, et ça se résume à ça. Donc voilà, là l'idée c'est de proposer des films qui réunissent adultes et enfants dans les questions qu'ils soulèvent, les problématiques qu'ils soulèvent.
Et ça marche pour cette première année au Festival du documentaire. Hier, j'étais à l'Alcazar, il y avait des enfants avec leurs parents.
Oui, en tout cas, pour ce qui est de la fréquentation des salles, a priori, ça marche. Les enfants viennent, les parents viennent avec des enfants, même si, comme je disais tout à l'heure, pour l'instant, c'est majoritairement des adultes qui viennent. Ce qui est certain, c'est que les enfants sont interrogés par les images qu'ils voient, qui ne sont pas des images qu'ils ont l'habitude de voir, et que donc il peut y avoir des réactions comme c'est étrange, j'ai pas tout compris, etc. Et ça peut être le point de départ d'une discussion avec les parents. Nous sommes là pour faire une proposition aux adultes, aux enfants, et après on se repose un peu. Pour ce qui est des parents qui viennent avec les enfants, sur les parents, pour qu'ils fassent ce travail d'accompagnement dans les questions que les films peuvent soulever.
Et alors, pour préciser un peu plus ce thème visible pour les enfants, quelle différence on peut mettre entre visible pour les enfants et tout public ?
Pas beaucoup.
Pas beaucoup.
C'est peut-être tout public. Tout public, ça veut dire pour les enfants, parce que forcément, tout public, la barrière qu'on peut mettre, c'est pas pour tous les publics. Ça voudrait dire, c'est pas pour les enfants. À moins que ça soit après une barrière de langue. Effectivement, c'est pour public francophone ou c'est pour public, je sais pas, anglophone. Mais a priori, quand on dit tout public, ça veut dire visible par des enfants. Or, nous, après, on a voulu faire quand même, dans la large dénomination tout public, une petite délimitation, c'est-à-dire que c'est des films visibles à partir de 6 ans. Donc, ce qui ne se vérifie pas dans la réalité, puisqu'on a vu des enfants qui avaient 3-4 ans qui venaient aux séances à l'Alcazar et qui suivaient les films aussi. Mais bon, a priori, c'est plutôt, on va dire, à partir de 5-6 ans qu'on est... à même de pouvoir vraiment apprécier et comprendre les films.
Paul Coste, j'aimerais que vous nous disiez un peu comment vous définissez votre documentaire Matière première que vous présentez dans cet écran parallèle. Est-ce que vous le définissez comme tout public? Vous l'avez fait pour ça? Enfin voilà.
Non, moi quand je l'ai fait, je me suis clairement pas posé cette question. Et en même temps, la question que ça pose, elle est très intéressante. Parce que j'en discutais hier avec un ami, là. Et en fait, si... alors là, c'est une programmation, mais par exemple, s'il y avait un groupe de cinéastes ou quoi qui se réunissait autour de ce problème-là, potentiellement, il y aurait des pistes de travail à essayer immenses. Parce que faire des films qui soient accessibles à tous de 7 à 77 ans, je crois, ça voudrait dire déjà... régler entre guillemets son compte au langage et donc essayer toute forme de choses dont l'animation, dont enfin ça voudrait dire repenser en fait une façon de faire du cinéma. Et ça me semble un projet captivant, quoique un peu fou. Et moi je me suis pas posé la question comme ça, dans le sens où dans mon film l'enfant d'une certaine façon est roi, c'est-à-dire il est au centre vraiment, c'est un film qui est construit autour de ça. Et ce qui m'intéresse c'est vraiment ce qu'ils ont à dire. Mais c'est comme une conversation pour grands quand même, entre guillemets, dans le sens où c'est une conversation qui, de sujets très simples, glisse ensuite vers des choses plus abstraites qui sont le langage, la poésie. Et donc moi, non, en le faisant, je n'ai pas cherché à faire un film spécifiquement pour, mais je pense en même temps que ça doit marcher quand même,
malgré tout. Ouais, je pense.
Oui, je pense.
La tirade sur l'identité bretonne ou pas, incroyable.
Ouais, c'est drôle, c'est drôle. Mmh. Ouais, ça c'est très drôle.
Une gamine, je sais pas quel âge elle a.
C'est 6 ans.
Je suis bretonne, mais non, je le suis pas parce que j'y habite pas.
Ouais, mais c'est très drôle en fait de s'appeler Arwen, ça lui suffit pour dire qu'elle est bretonne. Voilà, donc ça nous pose à tous des questions sur tout simplement l'identité quoi et la constitution de notre identité. Voilà.
Vincent, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Non, simplement sur, justement sur le fait de, que les réalisateurs ne s'est pas posé la question, Paul Coste en l'occurrence, ne s'est pas posé la question de est-ce que c'est un film tout public ou est-ce que ça ne l'est pas ? Effectivement, nous, dans la programmation, c'est essentiellement des films qui ne se sont pas posé cette question-là. On y retrouve des films d'artistes, des films plus proches du genre documentaire comme celui de Paul, et qui sont qui parlent simplement de sujets que nous on a estimé proches de des sujets qui préoccupent les enfants et les parents en l'occurrence. Donc effectivement, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est ça peut être à la fois des films pour enfants dans le sens où ils ont été pensés comme devant être destinés à des enfants en priorité.
Mais là, vous n'en avez pas beaucoup.
On n'en a pas beaucoup. Mmh. C'est essentiellement des films qui ont été pensés comme des films en tant qu'objet, en se posant bien sûr certainement la question du public, comme tout réalisateur se la pose, mais pas spécifiquement la question du tout public.
Donc il ne faut pas nécessairement se poser cette question. Et visiblement, ceux qui se la posent, ce n'est pas chez eux que vous allez voir le plus souvent.
Ça peut être chez eux... Ça peut être, je pense là j'élargis au-delà du cinéma, dans les programmations que l'on fait, on fait aussi des programmations autour du livre. Et là en l'occurrence le problème se pose aussi, les auteurs de livres aussi, de livres jeunesse, d'illustrations, parfois se posent la question, parfois ne se la posent pas. Et certains auteurs ont fait un véritable travail très intéressant à destination principale du jeune public, dans un souci de pédagogie, d'éducation à l'image, à des notions, qui sont des notions essentielles pour l'éducation d'un enfant. Donc il peut y avoir ça aussi. En l'occurrence, dans cette programmation documentaire, c'est essentiellement des films qui sont pensés en tant que film, point.
Alors, est-ce que vous auriez quelque chose à dire, un peu à redire sur justement ceux qui se posent cette question, que vous n'avez pas sélectionné pour une majorité, Nathalie, je ne sais pas. Est-ce que quels sont un peu les pièges dans lesquels ils tombent ? Enfin, pour vous, c'est pas...
Non, mais en fait, ce qu'on n'a peut-être pas encore dit aussi, c'est qu'à travers toutes ces œuvres qu'on a retenues, enfin du moins qu'on a regroupées, ces programmes qu'on a composés, il y a toujours une idée d'un peu un regard d'enfance qui ressort. Ce regard des réalisateurs sur l'enfance. Mmh. Et si on a mis aussi des films d'artistes, c'est peut-être pas un hasard, parce qu'on dit parfois que les artistes, ce qui les différencie de nous, c'est un peu justement cet émerveillement qu'ils ont pu garder sur le monde qui les entoure et qui leur permet d'avoir un regard plus poétique. Et voilà, et c'est peut-être ça aussi dans ces films qui nous semblent être beaux et importants pour les enfants comme pour les adultes, parce qu'on perd un petit peu ça en grandissant, cet émerveillement du monde ou ce regard un peu singulier sur le monde. Et donc, après, par rapport au film, fait plus. En fait, je n'ai même pas vraiment d'idée de film documentaire qui serait fait spécialement pour les enfants. Parce que même les documentaires animaliers qu'on peut voir plus facilement à la télévision s'adressent à un tout public.
Tout public.
Et enfin, moi, en tant qu'adulte, j'ai beaucoup de plaisir à voir des animaux évoluer. Voilà. Donc, des documentaires pour enfants, à la rigueur, je penserais, je ne les connais pas, mais à des programmes vraiment très pédagogiques qui seraient composés par des chaînes, plutôt des documentaires scientifiques pour apprendre techniquement comment se font les choses. Et là encore, les adultes pourraient trouver de l'intérêt. Bon, en fait, ce que je veux faire passer peut-être là, c'est que les enfants sont des adultes potentiels et qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre adultes et surtout beaucoup de choses à découvrir avec beaucoup de plaisir. Et voilà.
Je pense que, en fait, dans le. Peut-être ce qui n'existe pas dans le documentaire et qui existe dans le cinéma de fiction, ou plutôt ce qui existe dans le cinéma de fiction qui n'existe peut-être pas dans le cinéma documentaire, c'est des films qui sont faits avec des recettes pour séduire le jeune public. Voilà, on a tous à l'esprit les quand on pense films pour enfants, de suite, les blockbusters américains, les films d'animation, les Walt Disney, nous viennent à l'esprit. Et c'est peut-être des films comme ça qui sont faits spécifiquement pour des enfants dans un esprit de, comment dire, avec une sorte de recette, une sorte de cuisine qui est faite pour spécifiquement pour les enfants. Ça leur parle, les films sont extrêmement bien faits parce qu'à tel moment ils vont avoir peur, à tel moment ils vont être rassurés, ils s'identifient aux personnages, etc. Donc c'est toute une cuisine qui permet d'élaborer des films qui sont spécifiquement là pour capter l'attention des enfants. Dans le cinéma documentaire, a priori, j'ai pas d'exemple qui me vienne à l'esprit. Voilà. Donc c'est d'autant plus intéressant d'aller chercher des films qui vont au-delà de cette question de la séduction du spectateur et qui vont au contraire, par des biais bien sûr, qui vont être parfois familiers, qui ne vont pas tout à fait déstabiliser le jeune spectateur, mais qui vont être là quand même pour lui poser des questions qui vont au-delà des films qu'on leur propose en général. Ouais.
Paul, les enfants qu'on voit dans le film ont vu ce film, j'imagine ?
Pas encore.
Pas encore ?
Non, d'accord. Pas encore.
Donc vous êtes, ou d'autres enfants l'ont vu peut-être ? L'ont vu ici peut-être ? Vous avez reçu des choses déjà ? Ou vous avez vu des retours ? Vous avez entendu des choses ?
D'enfants à proprement parler, non.
Sur l'identification justement.
Mais de facto, je pense qu'elle existe. Quoi. Mm. Enfin, je veux dire,
Vous imaginez que...
Oui, j'imagine qu'elle existe. De la même façon, j'imagine que des enfants qui regardent Récréation, par exemple, toute proportion gardée, je pense que même si ça ne leur raconte pas forcément ce que ça nous raconte à nous, notamment ce regard très critique en fait sur la société.
Récréation de Claire Simon.
De Claire Simon, c'est-à-dire en fait c'est la cour de récréation comme miroir plus ou moins formant, déformant de la société. Bon, même, je pense que les enfants se retrouvent là-dedans, ils se voient, quoi. Ils se voient parce qu'ils sont déjà tout simplement vus par Claire Simon un petit peu tels qu'ils sont, quoi. Ouais, tout ça pour dire que y a des films qui portent un regard sur l'enfance, ça je pense que c'est sûr. Après, la question des films pour enfance, c'est autre chose. Voilà.
C'est souvent en plus des films, pour parler de... comme ça, en parlant de récréation, je pense même à des grands films tels que Jeux interdits ou autre chose. Ouais. C'est des films durs. Mmh. C'est des films durs qui mettent... Ouais. C'est la parole des enfants, justement, qui va révéler des choses, les grandes choses tragiques.
Ouais, un film sur l'enfant, ce n'est pas forcément un film pour des enfants.
Tout à fait.
Je pense à Allemagne année zéro.
C'est sûr.
C'est un film sur un enfant, on suit un enfant, c'est très touchant, mais forcément, ce n'est pas des images qui sont données pour tous.
Le cinéma iranien aussi s'est beaucoup servi de ça, de l'enfance en fait, pour échapper à la censure en fait, et notamment Et la vie continue, qui est un film qui est plus ou moins vu par un enfant, alors qu'ils sont dans une quête un peu glauque quand même, qu'ils sont en train de se demander et de rechercher si éventuellement... des membres de leur famille sont morts au cours de ce tremblement de terre qui a un peu ravagé l'Iran.
Et là, on arrive justement au cœur du sujet un peu qui nous intéresse, puisque documentaire jeune public, nouveau public. Voilà, donc à cette question, c'est très difficile à y répondre, justement. Mais comment on peut essayer de trouver des... Est-ce que c'est un public qui est emmené à se développer ? Ici, par exemple, au FID, est-ce que c'est la première année ? Je pense que ça va continuer. Est-ce que c'est une exception, un festival du documentaire comme ça, qui programme, qui essaye de réfléchir à comment les enfants pourraient percevoir le documentaire ? Est-ce que c'est une exception ? Est-ce que pour vous, vous voyez que ça se développe de plus en plus ? Est-ce que même peut-être il y a une régression ? Ce public des enfants pour le documentaire, il en est où ?
Oui. Avant de programmer, même si on ne s'est pas non plus étalé, on n'a pas fait des recherches très très poussées, mais on a quand même regardé ce qui se faisait de par le monde dans ce domaine, dans les festivals du documentaire internationaux, comme le Festival de Marseille. Et plus généralement, quand il y a rarement, mais il y a quelquefois, notamment à Amsterdam, des programmes, des écrans à destination du jeune public. Moi, j'ai remarqué que ce jeune public, il était surtout destiné aux adolescents, à partir de 13 ans. Donc finalement, je trouve que, et plus généralement, des documentaires présentés à des scolaires, c'est au niveau du collège, à partir du collège qu'on les présente. Alors que des enfants de nos jours sont tellement habitués, dès tout jeunes, à voir des images, en plus sont de plus en plus curieux, ils ont besoin d'informations, besoin de réponses. Donc finalement, c'est un peu triste de ne montrer ça qu'à des adolescents. Et voilà.
Avec peut-être aussi la spécificité des questions de l'adolescence.
En plus, l'adolescence est un temps de la vie particulier, ouais. Donc avec des questions très particulières. Bon, nous, on aimerait montrer autre chose aux adolescents, justement, quelque chose de plus ouvert, qui fasse plus rêver, tout simplement, parce qu'on a souvent des documentaires un petit peu très réalistes sur des situations du quotidien ou des problématiques d'adolescents. Alors, on aimerait justement que les enfants et les adolescents portent un regard sur le quotidien un peu plus poétique. Voilà.
Et qu'est-ce qui bloque de ce côté-là ?
Qu'est-ce qui bloque ?
Ouais.
Bah, j'ai l'impression que c'est toujours pareil. Quand on parle de documentaire, c'est peut-être là qu'on nous on a passé une frontière. Mais grâce au Festival du documentaire aussi, qui nous a fait confiance parce qu'il nous rejoint dans ce domaine-là. Au Festival international du documentaire, on ne voit pas à proprement dit que des documentaires. On voit aussi des artistes qui font des films qui mélangent fiction et réalité. Et peut-être que les festivals de documentaires, en général, font des frontières entre le documentaire et la fiction. Et puis entre le documentaire et le film d'artiste. Donc là, le fait de combattre, d'abaisser ces petites frontières, ça permet justement d'ouvrir des possibles. Et puis surtout, comme ce qu'on a voulu faire, c'est montrer des diversités d'expressions audiovisuelles. Voilà, ça nous semble essentiel de nos jours, puisqu'on voit énormément d'images. Donc que ces enfants soient à l'aise dans ce monde contemporain et qu'ils soient tolérants par rapport aux images qu'ils vont pouvoir voir plus tard et que ça leur permette aussi d'être prêts pour des rencontres, de ne pas être
déstabilisés
ou tout simplement bornés ou gênés.
Face à des images qui ultérieurement leur seront proposées, qui seront peut-être un peu plus complexes que les images un peu formatées qu'on nous sert régulièrement.
On va écouter un petit morceau de musique, on se retrouve juste après. C'est le Club des Sept, c'est un morceau qu'on a sélectionné, ça s'appelle Allez mon vieux. Ça me fait penser d'ailleurs à un des documentaires que j'ai vu dans votre écran, qui s'appelle L'illusionniste d'Alain Cavalier, ce portrait de cette femme de 86 ans qui est illusionniste, qui était magnifique. Donc ça s'appelle Allez mon vieux de Détecte.
Pas l'idiot. J'ai un message pour toi.
Voilà, toujours en direct du Festival international du documentaire à Marseille sur Radio Grenouille. J'accueille aujourd'hui Nathalie Guimard, Vincent Tuzet en Res et Paul Coste. Tous trois participent, enfin Vincent et Nathalie ont programmé cet écran parallèle Les Sentiers sur le documentaire Tout public, et Paul Coste, réalisateur du film Matière première, l'un des films programmés dans cet écran parallèle. Paul, justement, on va parler un peu de ce film. Oui, donc, oui. Comment est né ce projet? Qu'est-ce qui...
Le projet, il est né à partir du moment où j'ai commencé à suivre cette classe de CE1. Qui deux fois par semaine avait une sorte d'atelier de poésie un petit peu polyglotte comme ça, avec des très grands textes de littérature. Et ce qui était a priori très intéressant là-dedans, c'est que ces grands textes étaient vraiment des grands textes qui n'étaient pas du tout, puisqu'on parlait un petit peu de comment parler aux enfants, qui n'étaient pas du tout réduits, enfin c'était Homère, c'était Dante, c'était voilà, des choses donc avec la violence qui va avec, et aucune censure de la part de la personne qui s'occupe de ça. Et bon, il y avait cette chose-là, strictement, donc sur une espèce de niveau de langage comme ça, très élevé, par rapport à ce qu'on peut penser accessible aux enfants. Donc, il y avait cette chose très intéressante. Et ensuite, il y avait aussi quelque chose qui m'a parlé peut-être plus directement que ça, qui était que c'était une sorte de cours comme ça, d'atelier, qui était au croisement de l'expression théâtrale, dans le sens où ces textes étaient interprétés.
Ouais, elle leur fait vraiment dire les textes.
Voilà, il y a du jeu, quoi. Il y a de la mise en scène, de la mise en danger. Alors, une mise en espace très simple, quoi. C'est pas une pièce de théâtre non plus. Mm-hmm. Et j'ai commencé à suivre ce cours. Ça a commencé au mois de janvier 2005. Et petit à petit, j'ai commencé à penser à ce film, La Matière première, comme une circulation entre ce cours-là.
Et vous avez commencé à le suivre, pardon. Comment
oui. Avec des caméras, en filmant.
C'était déjà un petit projet que vous aviez.
Voilà, enfin, oui. C'était lancé, mais pas forcément dans la forme définitive du film. D'accord. Tel qu'il existe aujourd'hui. Et donc ensuite, voilà, j'ai commencé à penser à un film qui serait une circulation entre ce cours et une sorte de longue conversation avec ses enfants, en fait. Voilà. Et d'un point de vue un petit peu problématique, ça s'est passé de la façon suivante, qu'il y avait une sorte d'évidence en fait dans le cours. Et je me suis demandé si cette évidence, enfin quelle était la nature de cette évidence pour ces enfants. Mmh. Voilà. Alors là, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur un film dans lequel l'enfant est roi. Effectivement, c'est un film dans lequel l'enfant est roi, mais en même temps... De la même façon que je ne pense pas que la vérité sorte de la bouche des adultes, je ne pense pas non plus qu'elle sorte forcément de la bouche des enfants. Et donc, ce n'était pas une approche romantique ou quoi que ce soit. En fait, c'était juste essayer d'établir un rapport qui soit le rapport que j'ai avec n'importe qui d'autre, de 7 à 77 ans. Voilà, c'était donc leur parler comme ça, pas comme à des gousi-gousi, enfin, voilà...
Ça se sent d'ailleurs. Enfin,
ça se sent. Ouais. Oui, ça se sent. Ouais, mais ça, c'était vraiment très, très important. Ça. À défaut d'avoir une véritable construction du film au début, ça, en tout cas, c'était très clair. Et je pense que tous les décalages qui vont avec ça, c'est-à-dire on peut répondre très sérieusement à une question très sérieuse, n'importe quoi, par exemple. Et c'est là où ça commence à devenir savoureux, n'importe quoi, entre guillemets. Quoi. Alors on en revient à Arwen qui dit, voilà, moi je m'appelle Arwen, donc je suis bretonne. Mm. Voilà, ce genre de décalage. Et c'est un peu de cette façon que le film s'est fait, mais de façon très empirique hein, quand même. Mais voilà, c'était une circulation pour essayer de voir en fait si tout ce qui se passe, qu'est-ce qui se passait dans la tête de ces enfants une fois sortis de ce cours. Voilà.
Vincent et Nathalie, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce film?
Pas précisément tout ce que Paul vient de dire, c'est-à-dire qu'en fait le problème de savoir comment s'adresser aux enfants, quel sujet aborder avec eux, quels mots employer, quelle notion, quelle problématique abordées, c'est-à-dire effectivement les questions d'identité, la question de l'enfant dans la société, sa perception du monde. Tout ça, c'est des questions qu'on voulait aborder, non pas en se disant effectivement l'enfant ne comprend pas certaines choses, l'enfant n'est guère qu'un enfant, donc il faut lui parler comme un enfant en gagatisant le discours. Précisément, l'enfant est un spectateur comme un autre, avec une sensibilité, avec aussi un goût pour une certaine qualité de l'image, du récit, du film en soi. Et donc précisément le film de Paul est intéressant aussi de ce point de vue-là, c'est que la façon dont il s'adresse aux enfants est un peu la façon dont on veut nous aussi s'adresser aux enfants, d'adulte à enfant, mais surtout, avant tout, de personne à personne. Voilà.
Vous allez continuer ? Vous suivez toujours cette petite bande de gosses ?
Non.
Mais après, vous allez continuer sur cette démarche où vous en êtes où, donc maintenant vous partez sur de nouveaux projets ?
Oui, bien sûr, de nouveaux projets de fiction, de documentaires qui n'ont peu ou prou rien à voir avec tout ça. Et en même temps, moi j'ai quand même découvert quelque chose qui est peut-être tout simplement un moyen narratif. Je pense que ça peut être très, très intéressant dans un film de, alors je vais dire utiliser, non pas se servir de, mais se servir d'une parole comme ça, un peu particulière, qui est quand même la parole de l'enfance. Oui, ça m'a donné des idées. Pas spécifiquement pour continuer à travailler là-dessus.
Et alors sur l'enfance. Ouais. Vous leur expliquiez ce que vous. Il fallait leur expliquer clairement ce que vous faisiez ou ils comprenaient demain. Enfin, comment vous leur avez exposé les choses et comment se sont déroulées les choses, puisque.
C'était un jeu en fait.
C'est un jeu.
C'est un jeu. Alors, je leur ai pas expliqué parce que, enfin, pour l'instant. Quand je travaille sur un film ou quoi, si j'estime que j'ai pas à expliquer aux gens ce que je suis en train de faire, je le fais pas. Et que ce soit des enfants ou non, ça ne change rien. Mais en fait, ce qui était drôle, c'est que moi j'ai posé ça comme un jeu en fait. Et le jeu c'était, on parle et la règle du jeu c'est on réfléchit. Et plus vous réfléchissez, plus vous durez. Plus vous durez à l'image. Et si vous n'avez rien à dire, on coupe et puis c'est fini. Voilà. Et c'était assez stimulant comme exercice. Enfin, il y en a beaucoup qui se sont vraiment prêtés au jeu. Voilà. Et puis il y avait parce que, enfin, je pense que eux aussi ils étaient quand même conscients d'être filmés, donc d'être au centre de quelque chose, d'avoir du coup une nouvelle valeur
et d'avoir cette place.
Ouais, parce qu'il y avait pas cette naïveté en fait de leur part, je crois pas. Enfin, ils savaient très bien ce que c'est qu'une caméra. Alors d'être filmé, non, ils n'avaient jamais été filmés, mais voilà, il y avait cette petite étincelle qu'il y a toujours autour de ça, quoi. Et voilà, la règle du jeu, c'était on réfléchit, on avance, et si vous n'avez plus rien à dire, on peut filmer un petit moment de silence parce que ça sert, mais au bout d'un moment, on coupe.
Nathalie.
Voilà.
Oui, c'est ce qui est très beau dans le film, c'est la place au silence, la réflexion de l'enfant, et puis. Comme souvent, c'est ces phrases très spontanées qui sortent de la bouche des enfants, qui ne sont pas paroles de vérité, mais qui nous font, nous, en tant qu'adultes, réfléchir, en fait. Là, pour le coup, je pense que ça fait surtout penser les adultes.
Ouais.
Ces réponses d'enfants sur qu'est-ce que c'est la poésie. Voilà. Puis il y a des très belles scènes où, notamment, une petite fille raconte son rêve.
Ouais.
Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un raconter un rêve de façon si belle.
Oui, c'est parce que quand je dis en même temps, il y avait cette particularité de respecter un temps et une prise de parole aussi.
Il y avait quelques contraintes comme ça.
Oui,
partie du jeu.
Voilà, mais que je m'étais imposé aussi. Enfin, quand je dis que la règle du jeu, c'était tu parles, si t'as plus rien à dire, tu t'en vas. Il y avait un temps qui était donné quand même. C'est pas une usine à gaz.
3, 2, 1, allez, c'est bon, c'est fini.
C'est des contraintes qu'on impose aussi aux adultes. Ouais, c'est-à-dire, c'est les mêmes pour tous. quelqu'un qui est interrogé devant une caméra, s'il n'a rien à dire, bon, on passe au suivant.
Voilà, hein, ouais.
Est-ce que, pour revenir sur les questions d'écriture ou de narration, est-ce qu'il faut toujours prendre en compte ce double discours qu'on a tendance à vouloir voir dans les films jeunes publics, justement ? Est-ce que les enfants captent ça ? Et donc, pour que ce soit bien pour les adultes aussi, il faut nécessairement qu'il y ait l'aspect critique que l'enfant peut révéler derrière, qu'on pourrait appeler double discours, qu'on pourrait appeler autrement peut-être.
Cette question est intéressante à plus d'un titre, dans le sens où elle est intéressante en premier lieu pour la question de la médiation de ces films. Comme je le disais au début, effectivement, c'est important que des parents et des enfants, ou des accompagnants, on va dire, pas forcément des parents, mais des adultes et des enfants, puissent voir le même film et parfois s'intéresser aux mêmes questions, des questions communes. À la fois parce que ça engage une discussion, et puis aussi parce que ces questions, a priori, vont intéresser les adultes, et que sans adultes qui amènent les enfants au cinéma, il n'y a pas d'enfants au cinéma. Sauf rare exception, ça se passe à l'Alcazar, par exemple, des jeunes enfants viennent spontanément tout seuls voir les projections, mais c'est un contexte particulier, c'est l'Alcazar qui veut ça, grâce à la gratuité, la situation géographique de la bibliothèque dans le centre-ville. Mais sinon, on est intéressé les adultes aussi important qu'intéresser les enfants, parce que tout simplement, c'est les adultes qui vont amener les enfants au cinéma. Après, ensuite, la question de la double lecture, effectivement, les niveaux de lecture. Est-ce que il y a plusieurs niveaux de lecture et est-ce que c'est nécessaire pour effectivement créer de l'intérêt chez tous les spectateurs ? Je suis pas certain. Effectivement. Dans beaucoup de films qu'on va montrer, par exemple cet après-midi, un film d'artiste qui s'appelle Der Lauf der Dinge de Peter Fischli et David Weiss, qui est un film d'artiste qui soulève à la fois des questions qui relèvent de l'histoire de l'art, qui relèvent de questions morales, esthétiques, que peut-être les adultes peuvent décrypter. Mais qui aussi est très ludique et donc va parler aux enfants dans son aspect le plus imaginaire, le plus ludique. Donc là, effectivement, des niveaux de lecture différents peuvent se créer. En même temps, sur le film, par exemple, le film de Paul Coste, les questions qu'il soulève, les questions d'identité, de la place de l'enfant dans la société, comment on se situe, comment toute personne se situe dans la société par rapport à sa propre identité, ses propres origines, ça, c'est des questions qui sont communes. Et même si la perception de ces questions va être différente pour un enfant ou pour un adulte, la question reste commune. Et là, il y a une discussion qui peut s'amorcer entre adultes et entre enfants.
J'aimerais bien qu'on parle un peu depuis tout à l'heure, on parle de ces films, de cet écran parallèle sur les sentiers. On va un peu plus rentrer dedans maintenant, que vous nous donnez un peu plus de précision sur cette programmation, nous la décrire un peu. Donc c'est ça a commencé mercredi jusqu'à mardi encore. Jeudi ça a commencé jusqu'à jeudi, ça se passe à l'Alcazar.
Oui, la programmation.
La programmation se passe à l'Alcazar. Donc Nathalie, quelques détails sur cette programmation.
Déjà, ça a commencé à l'Alcazar, mais ça se continue au Pharo à partir d'aujourd'hui, puisque l'Alcazar est fermé
le dimanche
et le lundi.
Ouais.
Tout à fait. Donc, on était heureux de commencer cette programmation à l'Alcazar, parce que, comme l'a dit Vincent, c'est un lieu dont la gratuité permet l'accès à la culture à tous, et qu'on a déjà travaillé avec l'Alcazar dans ce sens, avec l'association Photokino. Et puis surtout, c'est un lieu où les publics se mélangent, et c'est certain, on le savait, c'est ce qu'on a évoqué avec le festival du documentaire en pensant à ce premier lieu d'accueil des sentiers. C'est aussi que le public du centre-ville de Marseille, notamment de ce quartier, de l'Alcazar de Belzins, ne va pas venir spontanément au Pharo. Et il y a très peu de chances, on essaye, on travaille dans ce sens, mais ça va prendre du temps. Donc à l'Alcazar, il y avait une chance qui a été effectivement concluante, que le public se mélange, public qui n'est pas averti, un public curieux, comme on voit les enfants de l'Alcazar, et puis un public de spécialisé, enfin pas spécialisé, mais enfin qui est plus habitué à se déplacer en salle, à payer une place de cinéma, à venir dans les festivals. Donc cette programmation, elle contient des films comme celui de Paul qui sont parvenus au festival pour la sélection en espérant faire partie de la compétition. Donc le festival reçoit chaque année 1200 films à peu près. Et puis certains films sont sélectionnés dans les compétitions et puis d'autres sont intéressants et proposés aux partenaires des écrans parallèles. Donc nous avons reçu quelques films parmi lesquels nous avons choisi celui de Paul Coste, celui de Nicolas Lheureux, Contine, celui de Carole Sionnet, celui de Romain Delange. Enfin, des films, justement, quelque part, je cite cela parce que c'est des films français et ça a aussi un petit peu conditionné notre choix puisqu'il y a une question de langage qui était importante. Mmh. On parle d'un programme accessible dès 6 ans. Il y avait la question de...
Ils vont pas mettre des sous-titres.
Ils vont pas mettre des sous-titres sur toute la longueur du film. Donc il y a quelques films étrangers, puisque l'idée c'était aussi de présenter une programmation, une sélection internationale et inédite. Donc ces films issus de la présélection FID datent de 2005 ou 2006. Mais les films étrangers ont peu de dialogue. Donc c'est leur spécificité.
Et après, vous en avez rajouté coups de cœur que vous aviez dans vos placards.
Voilà, c'est des coups de cœur, mais c'est aussi des films qui résonnaient avec ces films inédits, qui dialoguaient, et qu'on a composés autour d'une thématique un petit peu à chaque fois. Donc, Vincent, tu vas peut-être en dire quelques mots.
Non, mais on a regroupé effectivement, si on peut faire des genres dans cette sélection, il y a à la fois des films qui sont dits des films d'artistes, qui sont réalisés par des artistes plasticiens la plupart du temps, et qui, je pense donc encore à Der Lauf der Dinge qui passe cet après-midi, Blister aussi de Judith Bartolani et Claude Cailleul qui passe cet après-midi, ou Apnée de Raphaël Popperborn, une artiste marseillaise. Des films d'animation, parce que là aussi on ne s'est pas arrêté à une technique particulière, donc on a pu voir Voisin de Norman McLaren, on va voir La Rue demain de Caroline Leaf, un très beau film en animation, et puis des films donc plus proches du genre documentaire, dans le sens où il aborde un sujet sans technique particulière, mais comme le film de Paul Coste. Hein. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de technique, mais ce n'est pas abordé avec une technique plastique particulière, si ce n'est celle du cinéma en général. Et donc, il y a à peu près, on va dire, un tiers de films qui nous viennent d'une présélection réalisée en collaboration avec le FID, et puis deux tiers, effectivement, qui sortent de nos placards, de films récents ou plus anciens, et on a fait une sorte de mélange, on a composé un peu des séances, non pas vraiment sur des thématiques, mais plutôt on a essayé de faire dialoguer les films entre eux, effectivement, tout en montrant une sorte de diversité des images, pour un peu aussi renouveler le regard sur la longueur des séances, qui pourtant ne sont pas très longues, mais c'est vrai qu'à chaque fois, 4-5 films, il faut se replonger dans un film. Donc voilà, une diversité et en même temps un dialogue entre chaque film.
Cet après-midi à 16h30, salle numéro 2, donc vous en avez déjà parlé, mais on va les redire, c'est un nom allemand, j'ai pas retenu.
Alors, il y a 4 films. Donc, Regard libre,
de
Romain Delange. While Darwin Sleeps, qui est un film d'animation, on pourrait dire, de Paul Bush, dont on verra un autre film demain, Furniture Poetry. Et puis, suivi de Der Lauf der Dinge, Ainsi vont les choses, ou Le cours des choses, hein, The Way Things Go. Qui est un film de Peter Fischli et David Weiss, deux artistes suisses, hein, qui ont réalisé quelques films, qui ont réalisé 3 films. On en avait montré 2 dans notre manifestation Laterna Magica en décembre 2004 à la Vieille Charité. Et là, on montre le troisième, qui sera suivi de Blister, qui est donc aussi un film d'un couple d'artistes, Judith Bartolani et Claude Cailleul, qui ont réalisé ce film en 2001. Et donc voilà, ça sera le contenu de la séance. Demain, une autre séance. Et mardi, une séance composée à la fois d'un film qui ne sera pas passé, un film inédit, White Building de Jean-Luc Villemout, et aussi de rediffusions de films qui sont déjà passés à l'Alcazar.
Mmh. Comme La Goutte d'eau,
La Goutte d'eau, Notre Temps de Circus. Ouais.
Voilà. D'accord. C'est dommage, Paul Coste. La diffusion de votre film est passée.
Eh oui.
Est-ce qu'on va le revoir? Pardon.
On va voir. Peut-être à suivre. Peut-être mardi un changement de programme de dernière minute. À ça savoir que.
Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour influencer?
On peut faire quelque chose parce que.
Si les gens le réclament auprès de Radio Grenouille.
D'accord.
Si on reçoit un nombre suffisant de réclamations,
n'hésitez pas.
Non, à souligner qu'en fait, dans le programme qui a été édité par le Festival du Documentaire, des petites erreurs se sont glissées sur les trois séances justement de dimanche, lundi et mardi au Faro. Donc, ce qui était un peu contrariant et en même temps qui va nous laisser peut-être une marge de manœuvre pour pouvoir
rétablir certaines injustices.
C'est de la place à la, voilà, la liberté du
l'improvisation.
Moment.
L'improvisation.
Voilà, tout à fait. Le FID, vous allez continuer cette collaboration l'année prochaine, j'imagine, et les années à venir. Vous pensez déjà à une comment ça va évoluer l'année prochaine, cette programmation Les Sentiers? Ça s'appellera encore Les Sentiers?
Ça s'appellera encore Les Sentiers, c'est le titre qu'on a trouvé, qui pour nous était évocateur en fait de... justement des propositions de chemin dans lesquelles les enfants ou tout spectateur peut s'engager, des sortes de pistes qu'il peut suivre au milieu de la complexité du monde, au milieu de cette multiplicité des images, comment on peut se construire son propre chemin.
Et puis aussi par rapport, on trouvait si pertinent par rapport aux vacances, enfin, les enfants sont en vacances, ils viennent au festival, et cette idée des sentiers, c'est un peu ce qu'on espère que les enfants peuvent trouver quand ils partent en vacances ou quand ils sont en vacances, un peu d'évasion, un peu de beaucoup de découvertes, de rencontres, et c'est ce qu'on propose à travers tous ces films. Voilà.
Donc l'année prochaine, ça continue.
Donc l'année prochaine, ça continue très certainement. Et c'est vrai qu'on n'a pas réfléchi à la programmation, mais on aura un peu plus de temps aussi cette année d'y réfléchir. Étant donné qu'on a commencé cette collaboration assez récemment, dans les mois qui ont précédé, et que donc là, ça nous laisse vraiment une année avec une première expérience aussi, pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, là où on s'est trompé et là où on ne s'est pas trompé.
On dit deux mots sur l'Aterna Magica. Alors ça, c'est votre petit festival à vous, qui en décembre prochain sera la troisième édition.
Oui, l'Aterna Magica, c'est donc à peu près deux à trois semaines... De rencontres autour de l'image.
À Marseille.
On a initié ça en 2004. Chaque année, autour d'un thème, le conte la première année, la couleur la deuxième année, cette année la poésie, on réunit, un peu comme dans Les Sentiers, des œuvres, des artistes qui sont parfois des auteurs de livres, qui sont parfois des plasticiens, qui sont des réalisateurs, en tout cas qui ont tous pour nous cette... qui sont pour nous essentiels, qu'on a envie de partager avec le public, et toujours cette question du tout public. Alors, de toucher aussi des enfants, pour partager ça avec des enfants, parce que c'est souvent aussi des œuvres un petit peu singulières, rares ou fragiles pour les livres, et qui sont peu manipulables par les enfants. Donc on accompagne aussi cette démarche dans l'Aterna Magica par des ateliers qui permettent de toucher un peu plus aux choses et surtout de créer à son tour. Voilà. Et on a un site internet qui...
Le site, donc
voilà. Photokino.org, Photokino avec un F. Voilà.
D'accord. Paul Coste, des nouveaux projets. Vous avez un site internet aussi, peut-être?
Non, je n'ai pas encore.
Pour inviter les gens.
Je n'ai pas d'agent non plus.
Pas d'agent. Donc, les nouveaux projets.
Il y a un projet de documentaire en Iran, là, sur les peintures murales des martyrs de la guerre Iran-Irak, voilà, 80-88, avec Bijan Anquetil. C'est une co-réalisation, c'est un projet qui est bien en place, voilà, sauf problème nucléaire de dernière minute. Et sinon, une fiction de court-métrage qui s'appelle Cendre et qui est adaptée d'une nouvelle d'Olivier Adam, voilà, du recueil Passer l'hiver. Et voilà, j'espère que ça va m'occuper pour un an et demi, deux ans. Voilà, c'est les projets en cours.
En attendant de vous revoir, en tout cas, merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur ce plateau en direct pour nous parler de cet écran parallèle Les Sentiers. Vincent Tuzet-Henrès et Nathalie Guimard de l'association Photokino. Et merci aussi à Paul Coste pour son film Matière première. Prochaine sortie, prochain écran pardon, sur Les Sentiers, donc nous l'avons dit, c'est cet après-midi à 16h30 avec Regard libre de Romain Delange et Der Love Der Ding de Peter Fischli et David Weiss.
Mais aussi
deux autres, oui.
Et Blister.
Donc c'est salle 2 au Palais du Faro, d'où nous sommes en direct. Je vous donne la suite maintenant des événements sur Radio Grenouille. Tout à l'heure à 13h10, Olivier nous présentera un portrait de Jean-Claude Rousseau. Il est réalisateur et président cette année du jury de la compétition française au FID. À 15h, une bande sonore, un petit voyage dans le son, toujours venant du FID. À 18h, c'est le magazine quotidien du FID. Ce soir, Caroline Galmon reçoit Kay Mortley, productrice de radio et présidente du jury son. Et à 21h, nous vous proposons une petite sélection de documentaires sonores. Alors là, c'est spécialement radio. Donc une programmation de 3 documentaires sonores, 3 courts. L'usine et ses fantômes par Nicolas Ruffaut, producteur à Arte Radio. Le murmure de Bruxelles de Marianne Rouillard. Et les échos de la forêt par Magali Schurmans et Aline Hubert. Voilà, c'était pour l'antenne aujourd'hui ce que vous allez entendre sur Radio Grenouille. Mais sachez que sur place, évidemment, il y a beaucoup de films à venir voir. Et qu'à partir de 22h30, c'est après le foot. Vous pourrez venir goûter à la soirée organisée par Grenouille et le FID ce soir. Et ce soir, c'est le son de la maison qui sera au platine à partir de 22h30 sur place au Faro. Voilà, c'était Sébastien à la technique. Je vous souhaite une bonne journée. Salut.
Au revoir. Ciao.
It was destroyed and then rebuilt by the Greeks, Romans, Byzantines, Arabs, Crusaders, and Mamelukes.
И что сидим с камерой? Вы что улыбаетесь-то? Здесь не до смеха.
It was destroyed again by Napoleon's army and again rebuilt by the Turks. Then came the British conquest and finally the Israelis.
И как мы этот вопрос будем сейчас решать?
What a history.